Une question pour Pierre. Je voulais savoir, donc tu insistes beaucoup sur l'aspect narratif et symbolique de la centralité de la ville. Est-ce qu'à un moment, tu as constaté une effectivité musicale dans cette centralité-là ? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la musique industrielle qui est presque là au même moment, avec vraiment une façon dont la ville voilà, va affecter la façon de composer la musique.
Je ne suis pas sûr de pouvoir donner vraiment une réponse précise à cette excellente question, parce que voilà, c'est un sujet que j'ai... Là, c'était une première exploration de cette thématique voilà, qui était un peu traitée... dans, voilà, un peu en parallèle de ma thèse. Donc, voilà, j'ai pas tellement, pour l'instant, j'ai vraiment travaillé que sur les aspects textuels, mais effectivement, je pense qu'il y a des éléments à dire là-dessus. Mais après, plus que la question du contrôle étatique, là, c'est aussi quelle architecture, aussi quelle économie des villes. Si on pense par exemple au cas de Düsseldorf, qui va vraiment être une scène centrale pour. Le développement de la musique industrielle en Allemagne de l'Ouest, là, il y a évidemment un peu ce lien évident avec cette région de la Ruhr qui est une des premières régions économiques du pays. Donc, je pense qu'il y a des parallèles à faire, mais voilà, vu que j'ai pas assez creusé, je veux pas en donner un truc un peu qui se baserait sur des présupposés.
Juste une remarque pour Simon. Ça me fait penser à un truc sur... Est-ce que tu as, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu as interrogé la notion d'habiter de, par exemple, Benjamin Stock, qui explique comment on fabrique un espace, que tu parlais d'espace pratiqué, comment on fabrique un espace et comment, justement, on pratique cet espace via... soit des équipements ou des activités. Est-ce que, dans ta recherche, justement, tu as abordé un peu cette notion-là, qui est plutôt une notion géographique, philosophique, mais qui pourrait peut-être, toi, te donner des pistes par rapport à ce que tu as dit sur le rural et l'urbain ?
Écoute, ça tombe bien, parce que la notion d'habiter, à la base, c'est un concept qui est forgé par Lefebvre, justement. C'était son truc de dissocier. Il voyait la naissance de ce que c'était toute la mode de l'habitat, et notamment des pensées architecturales sur l'habitat. Et lui, il trouvait que c'était un problème et que conceptuellement, on perdait l'habiter comme une forme de verbe actif. Et un habitat qui est quelque chose de passif, en fait. Un habitat, tu t'y loges. Et Lefebvre développe ça, et ça a été vachement repris effectivement par les géographes. Et le slogan phare, quand même, du mouvement squat, je crois, qui est lié aussi au mouvement anarcho-punk, c'est quand même nous avons besoin d'espace pour habiter ce monde. Et effectivement, t'as quelque chose qui... dans les entretiens, t'as deux choses. T'as à la fois les espaces de concert, quand ils sont appropriés, où les gens peuvent rapidement dire « chez nous », ou « à la maison, c'était comme ça ». Enfin, tu vois, moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait une com avec Luc et Solveig, c'est à Paris 3. On avait parlé, il y avait Michel qui était là, et je racontais que... pour nous, la miroiterie, même si on n'était pas de Paris, c'était un peu la maison pour les concerts, tu vois. Et en fait, tu as effectivement une forme d'appropriation à ce niveau-là. Mais tu as aussi, notamment, moi je vois sur les personnes plutôt de la génération DIY des années 2000, fin 90, début 2000, des formes de colocation, mais qui sont des formes d'habitat collectif et qui sont bien plus qu'une simple colocation fonctionnelle ou je ne sais quoi, pour des raisons de thunes. C'est carrément un endroit où il y a les gens qui y habitent, mais il y a aussi tous ceux qui y passent leur journée, quoi. Ils appelaient ça la punk house, par exemple. Et les gens allaient là-dedans, ils y passaient la journée à discuter philosophie, à fumer des joints et à faire les comptes de la chour dans la semaine. Il y avait une compétition à celui qui avait chouré le plus de trucs, tu vois. Enfin, donc effectivement, il y a ces deux inscriptions dans l'espace qui sont intéressantes. C'est à la fois dans l'espace quotidien, de comment tu vis ta vie de punk en fait, au quotidien et dans quels espaces, et puis où elle est rendue publique dans les espaces de concert et dans ce genre de trucs-là, quoi. Donc la question de l'habiter, elle n'est pas directement énoncée par les gens, mais dans le sous-texte, tu as effectivement un truc de « c'est chez nous c'est la maison », ou ce genre de truc-là qui existe, quoi.
Ce que je trouve intéressant de ce que vous avez dit, c'est que la plupart des squats, que ce soit en province, en Europe, comme tu l'as dit, justement, et à Paris, enfin, moi ce que j'ai vu comme squat, c'était surtout des anciens bâtiments, anciennes friches, anciennes maisons, où il y a déjà eu, avant qu'il y ait un squat, je veux dire, squat punk ou artiste ou autre, que c'était déjà des vieux bâtiments qui avaient déjà vécu une vie par les siècles. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la plupart des squats, grandes friches, grandes usines, vieux garages ou vieux bâtiments une vieille usine, c'est que justement les gens se sont rassemblés parce qu'il y avait déjà une vie. Et s'il y a une forme de protection de ces vieux bâtiments par rapport à l'architecture dans les années 70-80 qui a jailli, qui a voulu détruire tout ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre le punk, qui a quand même une vieille structure musicale et artistique, et ce rapprochement avec ces vieux bâtiments, justement, de protection de ces friches et de ces lieux.
En fait, Pierre a rappelé un certain nombre de politiques urbaines. Et il faut savoir qu'en 1974, il y a un truc génial qui s'appelle la nouvelle politique urbaine. Et c'est de décider d'arrêter justement toute la construction des grands ensembles. À la fois parce que la droite voit ça comme un environnement pathogène, parce que finalement ce serait l'espace qui crée des comportements déviants ou je sais pas quoi. Et parce que la gauche dit que finalement c'est une vie qui est pas vivable. Et c'est aussi pour ça que tu vois que justement c'est dans ces territoires-là que se mettent en place les premiers concerts, c'est dans les quartiers périphériques en fait. Que ce soit effectivement les trucs que tu as cités sur les banlieues parisiennes, ou nous, ce qu'on racontait avec Christophe, des concerts à Hérouville-Saint-Clair, qui est la banlieue de Caen. C'est ces espaces-là. Et il y a une protection, enfin, je sais pas si c'est une protection, mais une inscription en tout cas dans cet espace-là, comme un espace approprié, qui est là, genre, vous n'allez pas l'enlever ce truc-là, vous n'allez pas l'enlever à la culture ouvrière, à la culture populaire. Et il y a. J'ai l'impression, toujours eu, dans l'appropriation des espaces par les scènes punk auxquelles j'ai eu affaire, cette question de défendre un espace. Défendre un espace qui appartient à une certaine catégorie sociale, à un certain ancrage dans la lutte des classes ou je ne sais quoi, et de ne pas vouloir le voir approprié par d'autres classes sociales. Et donc je pense que tu as raison. Le fait est que nous, quand on ouvre un local qu'on loue à Caen sur une zone industrielle, on l'appelle la pétroleuse parce qu'on est à côté des dépôts de carburant. Alors c'est la référence à la commune de Paris, mais c'est aussi les dépôts de carburant. Donc on inscrit toute la symbolique de l'espace que tu produis, tu l'inscris aussi dans le contexte autour, quoi. Et en même temps, c'est aussi compliqué parce que si tu regardes les travaux sur la gentrification, finalement, les premiers gentrifieurs, c'est les punks. Et tu regardes dans les quartiers populaires parisiens, moi, les copains qui habitent le 18e, qui habitent là, ils me disent « Ouais, c'est en train d'être gentrifié à mort. » Tu me dis « Mais t'es arrivé il y a 10 ans, mec. Et en fait, t'as été dans les pionniers. » Et effectivement, t'es venu parce que c'était pas bourgeois, parce que t'avais pas les thunes, etc. Mais t'as ramené tes habitudes de blanc, t'as ramené ta musique de blanc, etc., etc. Donc c'est toujours des trucs qui sont compliqués parce que t'as des formes d'appropriation mais aussi de désymbolisation des espaces. Tu vois. Je prenais l'exemple de la friche à Caen, là, de la SMN, où clairement c'était un projet du coup qui n'a pas été approprié par des acteurs locaux, mais c'est la mairie qui a impulsé le truc. Et l'idée c'était de dire, ça devient un lieu artistique, du coup c'est plus un lieu de la mémoire ouvrière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont fait ce truc artistique? Ils ont mis en place le projet qui est de sortir de cette zone qui était industrielle vers une zone de développement du tertiaire et des nouvelles technologies. Et en fait ça permet aussi d'effacer une mémoire qui existait. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ces trucs d'appropriation. Parce qu'on est toujours un peu moteur, en disant on porte un truc, etc. Et en même temps, des fois, on est aussi instrumentalisé sur des processus urbains, parce qu'on n'a pas le choix d'un point de vue de la thune, en fait. Je sais pas si j'ai répondu à peu près.
Ouais, pour rajouter aussi un peu là-dessus, effectivement, mais je pense que les premiers gentrifieurs, avant d'être les punks, c'est plutôt les logiques. C'est évident qu'on est d'accord. Mais je trouve effectivement aussi, là, d'un point de vue historique, c'est vraiment très intéressant d'étudier cette période parce qu'il y a aussi des stratégies qui sont déjà mises en place avant, mais ce que j'appelle, moi, la réduction culturelle, c'est-à-dire d'essayer de prendre ces enjeux contestataires et dire, finalement, c'est que de la contestation culturelle. Et donc, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne un lieu et après, comme ça, on n'aura plus de soucis et ça, finalement, tant mieux. C'est vraiment ce qui est mis en place dans différents pays. En Suisse, voilà, au début, il y a ces émeutes pendant toutes les années 80 à Zurich, à Lausanne et tout ça, et la réponse de la ville, c'est vraiment de dire bon, maintenant on a marre de ces manifestations, on va leur donner des salles, et puis comme ça il y aura un contrôle. Donc il y a aussi vraiment cette volonté là de reprise symbolique, mais aussi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les punks sont aussi les premiers à lutter contre ces logiques de gentrification, même si on n'appelait pas encore ça comme ça. Justement à Genève par exemple, dans les milieux des squats, quand il y a la volonté de réhabiliter un quartier près de la gare, les punks jouent un rôle très important. Là, cette brochure que je parlais à Hambourg, c'est où on veut leur interdire leur ville, c'est en même temps je trouve des arguments qui sont extrêmement contemporains sur la critique de la reprise en main de la ville par le commerce, par aussi la volonté de tout rendre beaucoup plus propre et plus lisse. Il y a déjà ça, et les punks jouent un rôle très vite dedans, il y a sens complet en disant bon voilà, maintenant on a une salle et on n'a pas besoin de voilà. Donc aussi rappeler ça.
Comment pas commencer un espace en fait qui dont on parle pas souvent, vous en avez un petit peu parlé, c'est la banlieue. Alors, moi, je parle de la banlieue des années 80, pas parce qu'on appelle les quartiers sensibles aujourd'hui, etc., mais plus voilà, les jupes, blousons noirs, etc. Et j'avais rencontré donc des gens de Gouniaf Mouvement il y a quelques années, qui me disaient, eux, ils avaient une problématique vraiment spécifique à la banlieue. En gros, ils disaient, nous, on est une espèce de territoire qui n'existe pas, qui est reconnu par personne, dont personne ne parle. En gros, il y a Paris et la province. Les gens de Paris vont en province, les gens de province vont à Paris. Et nous, on est une espèce d'identité qui n'existe pas. Donc, ils avaient créé tout un tas de trucs, la banlieue des Machiavel. Enfin, voilà, ils s'étaient créés plein de choses autour de ça. Et je voulais savoir si vous, vous aviez, à travers vos prismes respectifs, vu des trucs spécifiques sur cette espèce d'entité qu'est la banlieue parisienne, essentiellement. Parce qu'après, il s'est passé quand même vachement de trucs assez spécifiques, parce que c'est un endroit qui... à quelques caractéristiques de Paris, de par la proximité, etc., mais beaucoup de caractéristiques aussi de villes, de provinces, sur le peu de structures, etc. Donc je voulais voir si vous aviez une entrée spécifique, ou vu des trucs par rapport à ça.
Moi, honnêtement, pensant que j'ai encore peu creusé cet aspect-là, parce que j'ai l'impression que... aussi comme si je suis historien, j'ai une période et puis j'ai pas encore eu le temps d'aller au-delà, mais je vais me soigner, peut-être enfin m'ouvrir à 83 assez vite. Mais et avant ça, à mon avis, néanmoins, on voit déjà quand même des prémices de l'ouverture de la scène punk sur cette question-là des banlieues, notamment avec Gouniaf Mouvement, mais qui commence à mon avis juste après, peut-être 82-83, je suis plus très sûr, mais voilà, où il y a quand même un changement aussi de qui sont les personnes qui participent à la scène punk en France. Et du coup, une prise en compte de cette question-là des banlieues qui peut se voir dans simplement la façon de le mettre en avant, comme ça peut être le cas dans Souris Déglingué, mais aussi dans le contenu des fanzines qui va justement revenir sur cette question-là. Donc, je l'ai un tout petit peu abordé, mais très rapidement. Mais il y a quand même, à mon avis, cette prise de conscience, cette question des banlieues qui s'observe moins dans les autres cas nationaux, mais qui, à mon avis, montre une fois de plus justement la capacité de la scène punk, même dans un moment où elle est encore relativement peu développée, à refléter justement ces enjeux sociaux plus larges.
Ouais, moi, c'est compliqué, étant pas spécialiste de Paris, de causer des banlieues que je connais très peu. Le seul truc, c'est qu'il y a déjà une littérature là-dessus. Effectivement, t'as tout ce qu'on appelait la banlieue rouge aussi, qui était un foyer vivace, tout ça. Après, en province, si t'as une distance entre, tu le sais bien, entre les centres-villes et les quartiers, une distance symbolique, culturelle, etc., d'un point de vue géographique, c'est des allers-retours qui sont faciles à faire. Donc j'ai eu l'impression, en tout cas quand dans les récits que j'avais, que les gens effectivement les gens qui habitaient à Caen pouvaient aller voir des concerts à Aéroville, parce que c'est pas loin en fait. Enfin tu vois, ça se fait à pied, t'as une demi-heure de marche, ça se fait quoi. Mais le truc qui est intéressant, c'est que pour rejoindre l'exposé de Christophe ce matin, c'est que ce quartier populaire d'Aéroville, c'est une ville nouvelle, c'est vraiment le truc un peu qui sort du sol ultra rapidement, qui est complètement fonctionnaliste, avec un délire d'architecte et d'urbaniste un peu fou. C'est dans cette ville-là qu'ont eu lieu les premiers concerts et la plus grosse concentration, et aussi la naissance de la radio locale 666. Et donc il y a eu tout un truc qui a pu se passer aussi dans un cadre où t'avais une mairie de gauche, parce que t'avais jamais trop quand c'est vraiment une petite ville bourgeoise, hein, le centre-ville. T'as eu ça un petit peu dans un autre quartier de Caen qui s'appelle le Chemin Vert, où il y avait des concerts à la MJC du Chemin Vert pas mal, à la Maladrerie aussi un petit peu. Par contre, moins sur le sud de Caen, qui est beaucoup plus ouvrier et beaucoup plus avec une vague de l'immigration d'après-guerre pour la reconstruction. Et en fait, là, bizarrement, moins d'informations sur des concerts dans cette zone-là. Alors que plutôt dans la banlieue un peu plus blanche, il y a eu des trucs. Donc ça interroge aussi des trucs sur qui sont en fait, d'un point de vue sociographique, les punks, où ça se passe. Après, sur Nantes aussi, j'ai vu qu'il y avait eu des choses de fait. J'ai notamment vu des tracts de groupes de Nantes qui parlaient de Malakoff et de Bellevue, de quartiers de Nantes assez chauds, etc., qui reprenaient d'ailleurs des textes de hip-hop pour en causer. Donc c'est... Je sais pas. C'est peut-être plus sur les jonctions de registres musicaux, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de trucs entre hip-hop et punk aussi, d'alternance sur ces thématiques-là, qui étaient assez intéressantes à une époque. Mais je peux pas te répondre sur Paris.
Enfin, sur la banlieue, il y a aussi des questions liées à l'identité ou comment les gens se revendiquent. Enfin, si je connais, enfin, si je peux parler de strychnine, les loustiques avec qui je joue, ils en rigolent, mais en fait, pas tant que ça. Ils disent, nous, on n'est pas de Bordeaux, on est de Bègle. Donc Bègle, c'est bon, c'est pas Bordeaux. Voilà, on vient de là. Et si on se souvient bien de Bijoux, alors peu un coup pas, peu importe, mais ils arrivent de Juvisy. Enfin, on le sait. Et puis ils en parlent souvent. Enfin, c'est la banlieue en tant que territoire. Moi, on en parle plus souvent sous cet angle-là, me semble-t-il, sur le lieu d'où on est à l'origine ou d'où on vient. Enfin, l'aspect sur la construction identitaire. Après, bon, ça, c'est un aspect seulement de la problématique, hein, me semble-t-il. C'est un élément de réponse parmi d'autres.
Ouais, hein, mais... Moi, j'ai un copain, tu vois, qui est dans la scène punk rock DIY et qui, lui, habite Gennevilliers. Il le revendique. Il est né à Gennevilliers.
C'est ça.
Un autre copain, Jessica 93, que les gens connaissent peut-être, qui fait de la noise. Jessica 93, il vient du 93 et il disait... C'était moi la minorité avec mes cheveux longs et mon t-shirt Nirvana dans le quartier, tu vois. Et donc c'est aussi intéressant de voir comment tu te forges une identité différente là-dessus. Et quand tu marches avec un copain qui habite à Gennevilliers ou qui habite à Bondy ou je sais pas où, et qu'en fait le mec il connaît tous les dealers du quartier parce qu'il a grandi avec eux, c'est aussi ça qui est intéressant dans la structuration de l'identité et du rapport à son quartier. Et je sais qu'il y a un ancrage, lui il habite toujours son HLM à Gennevilliers, et que c'est d'autres copains punk plus jeunes qui habitent avec lui en coloc maintenant là-bas, et qui, la pochette de leur disque là, c'est Intenable, un groupe de punk rock de Gennevilliers, du coup, enfin ils se disent de Gennevilliers alors qu'ils viennent de Paris ou de Bordeaux à la base. Et c'est la photo qui est prise depuis l'appartement sur Paris, tu vois la tour Eiffel au loin, mais c'est pris depuis l'appartement de Gennevilliers. Et je trouve que symboliquement, c'est intéressant, tu vois. Ça montre genre un regard distant à Paris, quoi.
Merci. Non, c'était juste, enfin, pas une question, c'est juste une anecdote aussi pour info. En fait, c'est assez surprenant qu'on fasse le colloque ici. Il y a donc quelques années, en fait, à quelques rues d'ici, il y avait un squat qui était au rue Caplat. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, il y avait le squat donc de la rue Caplat. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Mouvance, donc anti-impérialiste, anti-raciste, anti-capitaliste, qui était dans le coin. Et donc moi, à l'époque, je faisais partie des Brigades, donc un groupe punk rock parisien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a la rue Caplat qui est juste à côté. Donc c'était un lieu où, en fait, où on faisait des réus avec une partie de ce qui allait devenir le SO des Béruriers Noirs, quoi. Donc, et de gens aussi qui faisaient partie de fanzines, notamment il y avait S Bien Raisonnable à l'époque. Oh, j'ai pas la mémoire de tous les noms. Et pour anecdote, il y a... À l'époque, il y avait la construction, l'emplacement du commissariat de la Goutte d'Or qui devait se construire. Donc avec les brigades, on a fait des photos sous le métro aérien. Là. Une photo à l'emplacement de la Goutte d'Or. Et le bassiste est revenu deux jours après. C'est véridique. Hein. Il est revenu au même endroit. Il y avait le panneau donc, qui avait marqué... moi, j'avais fait une photo où je posais... il y avait marqué brigade d'arrondissement. Donc j'avais mis mon bras pour la photo. Et quand lui est revenu, il a trouvé deux jeunes... Un petit rebeu, un petit black, en fait, qui était en train de péter une télévision juste devant ce panneau de construction. Et en fait, vous verrez sur le deuxième album des Brigades, le verso de la pochette, c'est cette fameuse photo qui était dans le quartier. Ben voilà, quoi, pour dire que c'est assez surprenant, quoi, ce triangle qui s'est fait à cette époque-là. Quoi. Voilà. Après, je sais pas s'il y a des anecdotes sur les gars qui étaient sur Paris à l'époque, qui connaissaient ce lieu. Quoi. Parce que ça fourmillait quand même pas mal. On avait des réunions donc, sur les organisations de concerts, sur les réus qu'on devait faire. Et pour info, ça s'est terminé. Radio Mouvance a été obligé de mettre la clé sous la porte. Les flics sont descendus et le mec en direct, au micro, hein, il a dit que je vais arrêter l'émission. En fait, il avait le pétard sur la tempe. Voilà, quoi. Ça s'est terminé un peu comme ça, quoi. En autre boudin. Quoi. Voilà, juste pour une petite anecdote du quartier. Quoi.
Ce que tu dis, en fait, ça rappelle aussi un truc dont on n'a pas trop parlé d'un point de vue d'inscription dans l'espace, mais c'est l'inscription des bandes aussi. T'avais une époque aussi où ça fonctionnait par bande et tout ça. Enfin, tu vois, même chez les FAF, t'avais toujours ce truc-là, l'identité du quartier que tu défends aussi. Et donc t'avais rien que par nom de groupe interposé entre FA et Antifa, ça se tirait la bourre sur des trucs. Et en campagne, en fait, je sais pas, ou en province, j'imagine, Luc, t'as peut-être des anecdotes là-dessus, mais sur la bande du village de machin, enfin, c'est les gars de tel endroit. Et en fait, t'as une inscription aussi géographique, une assignation, de même qu'en fait... des fois, on se rend compte qu'on est assigné à une scène plus qu'on s'identifie à une scène. T'as la même chose sur le fait d'être assigné à une identité géographique alors que t'en as rien à carrer, quoi. Et bah, on en parlait avec Arnaud aussi tout à l'heure. Hein. T'es toujours le gars de Paris, le gars de machin, etc.
Ben voilà, on a donc un thème qui se dégage, la territorialisation du punk, en fait, hein, qui est plus vaste que ce qu'on a évoqué aujourd'hui, mais ça permettra d'englober la banlieue, les constructions identitaires, le coin d'où on est. Voilà, là, il y avait la bande des Halles aussi avec les punks. Hein, bon, donc effectivement, on y reviendra hein, sur cette thématique. Voilà. Ben, merci Simon et merci Pierre. Là, on peut vous applaudir.